fait, je vais peut-être laisser à la discussion le soin de détailler un peu sur la synarchie qui devait former l'ossature, mais je dirais que vu ce que représente la synarchie, vu la conjoncture dans laquelle nous sommes, je crois qu'il est logique, plutôt qu'on fait tout de suite dans les détails de ce mouvement secret, avec même un certain nombre de rites initiatiques, enfin dont je ne me suis pas occupé du tout, il vaut mieux essayer de comprendre ce que représentaient les élites économiques françaises et comment elles ont pu conduire à une défaite de 1940 qui a été une déroute, qui a été la défaite la plus ignominieuse qu'ait connue la France et dont on parle pas mal ces temps-ci, ça doit vous frapper, puisque il n'arrête pas de sortir des publications. Revue d'histoire que je considère comme une véritable malédiction pour le niveau culturel moyen de nos élèves, enfin de nos élèves, peut-être pas de nos étudiants et même quelquefois de nos enseignants, a fait un numéro spécial sur lequel je dirais peut-être quelques mots. Le Monde vient de sortir en 1940 à débarquer l'espoir. Et ce qui est quand même très frappant dans la période où nous sommes, c'est que sur un événement qui a eu une importance considérable, puisque ça a fait régresser la France du rang de grande puissance, de très grande puissance, au rang de puissance moyenne. Et donc ça a représenté une étape considérable pour, d'une part, l'impérialisme français, mais aussi, évidemment, le peuple français. Alors que les sources s'ouvrent, sont largement ouvertes depuis une dizaine d'années, parce que certaines sources faisaient défaut, finalement, quand vous regardez le hors-série du Monde que m'a donné hier un jour un documentariste et le numéro de l'histoire, vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit à ce qui s'est passé. Et je dirais même que vous comprendrez moins ce qui s'est passé que vos grands-parents ne comprenaient la réalité à la Libération, ou quelques années après. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, sur ces classes dirigeantes, on sait aujourd'hui d'autant moins de choses qu'une sorte de surveillance permanente s'exerce sur la pensée et empêche les connaissances scientifiques de se répandre dans la population. Je le dis, ça me contrarie évidemment, pas seulement pour ma chapelle, puisque moi je vais chercher des sources qui n'intéressent pas grand monde. Je dis que c'est terrible parce que ça nous amène à une régression dans le domaine de la science historique qui se mesure, vous êtes tous amenés à en juger, à quelque âge que vous ayez, qui se mesure à ce que sont devenus nos manuels scolaires, nos manuels du supérieur, etc. Autrement dit, on sait moins de choses aujourd'hui, et plus il est essentiel qu'on les sache, moins on les sait. C'est d'ailleurs, évidemment, à cause de la conjoncture, que la vérité historique qui devrait se faire chemin ne se fait pas chemin. Alors, d'abord, je voudrais dire que pour travailler sur la très grande bourgeoisie, on est en France dans de très mauvaises conditions. Les archives sont ouvertes, celles qui permettent de travailler sur les années 1930, en gros, se sont largement ouvertes à partir de 1999, c'est-à-dire que la clause des 60 ans était très stricte pour les fonds des années 1930, alors même que, dans les années 1990, les fonds de l'occupation s'étaient ouverts. C'est d'ailleurs à la fin des années 1990 que je m'étais donné et que j'avais communiqué aux lecteurs l'engagement que je souhaitais réaliser pour essayer de comprendre pourquoi on était arrivé à l'occupation et à la collaboration économique. Je comprenais bien qu'il s'était joué des choses extrêmement importantes dans les années 30. Or, finalement, personne ne savait rien sur les années 1930. Paxton, qui a fait un très grand ouvrage, parce que tout le monde connaît, en tout cas, quand on connaît dès qu'on fait l'histoire, Paxton avait fait un bouquin sur la France de Vichy. Il n'avait d'ailleurs même pas eu accès à des sources, puisque il avait travaillé exclusivement sur des archives allemandes, les archives collectées par l'occupant américain qui avait saisi des archives allemandes et qui les avait emportées à Washington. Donc il avait travaillé sur ces archives. Il n'avait à l'époque, travaillant dans les années 1960, eu aucun accès aux années 1940. Dans la période suivante, les années 1940 se sont ouvertes. De sorte même que c'est quand je préparais un ouvrage, et c'est même quand j'achevais un ouvrage, j'ai pas pu travailler dans le bon ordre vu les problèmes de sources, qui portait sur les années 1940, qui s'appelle Industriels et banquiers sous l'occupation, que les fonds français, en particulier les fonds de police, se sont ouverts, alors même qu'ils étaient rigoureusement fermés depuis 1960, et que Paxton, qui avait fait sur les années 1940, avec des archives non prises en France, parce que non disponibles, avait fait en 1995 un livre sur les chemises vertes, sur les dorgeristes, c'est-à-dire un mouvement fasciste qui se dit agraire, mais dont les principaux dirigeants avaient plutôt des habitudes urbaines. Son bouquin n'était pas bon, il était très imprécis, et Paxton avait avoué d'ailleurs dans une conférence de 1995 qu'il n'était pas très bon parce qu'il n'avait pratiquement pas une source. Alors ça va m'amener à évoquer les raisons pour lesquelles, même quand on a des sources, on a beaucoup de mal à s'en servir. On a beaucoup de mal à s'en servir parce que un certain nombre de mes collègues ont jeté certains interdits sur à peu près toutes les sources, et puis d'autres, ou les mêmes d'ailleurs, précisent et détestent encore plus certaines sources que d'autres. Par exemple, on dit volontiers que les sources de police sont des sources médiocres, voyez, le travail de basse police, c'est un travail finalement non seulement médiocre, mais enfin qui va fouiller dans les poubelles, ça n'a aucun intérêt. Par conséquent, il ne faut pas aller les regarder, puisque de toute façon, éventuellement, les policiers racontent n'importe quoi, ils fantasment beaucoup, ça c'est Berlière, le grand spécialiste proclamé, autoproclamé, proclamé aussi, de l'histoire de la police, qui répète ça finalement, il dit, oh là là, les archives, je croule sous les archives, et je n'apprends rien, parce que les policiers fantasment. Est-ce qu'il y a un chercheur qui dirait qu'on peut travailler sur les relations internationales sans aller chercher les papiers diplomatiques ? Aucun. Ou qu'on peut aller travailler sur les questions strictement militaires sans aller aux archives militaires ? Bon, je ne vais pas dérouler les choses. Il faut bien comprendre que pour connaître la vie politique intérieure et des aspects extrêmement divers, qui incluent même des aspects financiers, il est impératif de travailler sur les fonds de police. Parce que la police, qui est appelée à différentes tâches, assume évidemment ses différentes tâches, et les tâches pour lesquelles elle est programmée, elle les assume comme le fait n'importe quel fonctionnaire ou fonctionnaire. C'est-à-dire que la police, que les choses lui plaisent ou pas, et qu'elle fantasme éventuellement parfois ou pas, elle donne des informations globalement fiables. Elle donne des informations d'autant plus fiables qu'il y a des services spécialisés à qui on ne demande, comme à n'importe quel service, que de donner des renseignements. Ces renseignements sont donnés. Et il n'y a aucune raison, quand on dispose d'un échantillonnage suffisant, de mettre en cause les renseignements en question. Je vais donner un exemple qui va permettre de comprendre pourquoi il est si dur de faire de l'histoire en France. Jeanne Ney, Jean-Noël, qui occupe une place à France Culture très importante, que vous entendez souvent, qu'il y a des historiens, a travaillé par exemple sur un des personnages, sinon de la synarchie, du moins dont l'entourage est très très largement dans la synarchie d'Empire, c'est-à-dire une étoile du comité des forges. François de Vindel, qui était à la fois régent de la Banque de France, banque privée, grande banque privée, émanation de ce qu'on appelle la haute banque en France, et qui était président du 7 rue de Madrid, c'est-à-dire du comité des forges. C'est-à-dire, en gros, qui était un des maîtres de l'industrie lourde en France et qui a eu, sur le sort de la France, un rôle infiniment plus important que les gens dont on entendait parler tous les jours, de Daladier à Reynaud, en passant par nous et tout. Et Jamais a fait donc une thèse sur François de Vindel, dans laquelle, à un moment, il explique que le comité des forges, François de Vindel en particulier, ne possédait pas le temps. Le temps, c'est le prédécesseur direct du Monde, qui a repris d'ailleurs ses caractères gothiques, et dont on peut considérer que c'était le symbole de la bourgeoisie faite journal, et il faut le savoir, un journal très important, parce qu'il avait en matière de relations de politique extérieure la même fonction que le Monde, c'est-à-dire que c'était l'émanation du Quai d'Orsay, comme est d'ailleurs à peu près le service de tous les journaux consensuels, puisque la politique extérieure, elle se fait au Quai d'Orsay, y compris avec les journalistes à qui on explique ce qu'ils doivent savoir et ce qu'ils doivent surtout diffuser. Et donc, il explique qu'il y a des mauvais coucheurs qui ont prêté à De Vindel un rôle déterminant sur le temps, mais pas du tout. Pourquoi ? Parce que les archives de police se sont trompées. En revanche, De Vindel, en 1946, a dit qu'il ne contrôlait pas le temps. Puisque De Vindel l'a dit, eh bien, les archives de police doivent être remisées. Or, les services de police comportent des sections financières, des sections d'examen des journaux, et il faut savoir que jour par jour, les fonds de police, les archives de police, font le tri de ce que représente le contrôle capitalistique sur un journal, la manière dont naissent les campagnes, comment elles s'organisent, comment on lance une campagne, alors qu'on a que le lecteur a l'impression que le journaliste a fait un travail tout à fait spontané, eh bien non. Jeannet disait aussi que De Vindel, le grand-père, vous le savez, d'un récent président du MEDEF, le baron Seyer, avec famille Vindel et famille Seyer qui sont depuis deux siècles unis. De Vindel était considéré par Jeannet, lié aussi à ses milieux, comme quelqu'un qui, certes, avait eu des tentations fascistes, par exemple pour l'Italie, mais alors qui, à partir d'Hitler, était devenu absolument impeccable. Et d'autres historiens ont expliqué, d'ailleurs, que Vindel était une sorte de pilier de ce qu'on appellerait le camp de la résistance à l'hitlérisme. Si vous regardez les sources, et puisque j'ai évoqué les journaux, les sources journalistiques, vous vous apercevez que Vindel, qui a fait le cartel de l'acier, ce qui nous amène à des choses très nouvelles, puisqu'on est là au cœur de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le bébé. Hein. Quand Vindel fabrique le cartel de l'acier, avec ses compagnons d'autres, ses pères d'autres nationalités, notamment allemands, il lance des campagnes. Et les archives de police permettent de voir comment on lance des campagnes de réconciliation, c'est bien, finalement, il faut surmonter la guerre, etc. Donc on peut suivre ça, 24, 25, 26, et puis ça recommence, ça continue, et puis ça recommence en 1933. Et Vindel, que Jeannet présente comme une sorte de parangon de vertu et de résistance à l'hitlérisme, parce qu'un peu de fascisme latin, ça va, mais... pas d'hitlériste, eh bien, Vindel est un des artisans de cette campagne qui fait comprendre aux Français que finalement, on peut s'arranger avec les Allemands qui nous aiment bien et que Hitler, si on le laisse aller s'occuper de l'Est, finalement, sera très gentil, très raisonnable, et d'ailleurs, qui s'occupe de l'Est, ça arrangera bien tout le monde puisque l'Est, comme chacun sait, c'est les méchants bolcheviques. Et par conséquent, en allant à l'Est, il ne touchera pas à l'Ouest. Naturellement, vous voyez que d'un côté, il y a le témoignage, il y a les convictions tirées de liens familiaux, de liens culturels, etc. Et puis, il y a les sources. Eh bien, moi, je travaille avec les sources. Et je travaille avec les sources en les croisant. Et le travail est très difficile, non pas parce que on n'a pas accès aux sources, on a accès à peu de sources par rapport à ce qui est détruit, c'est certain. Mais en contemporaine, l'iceberg est tellement énorme que quand on a un petit bout d'iceberg et qu'on a beaucoup de petits bouts d'iceberg partout, parce que si on n'a pas certains fonds, on va en chercher d'autres. Et si on n'a pas les Français, on va en chercher des étrangers, et on trouve dans des étrangers des choses qu'on ne pourrait même pas trouver en France, sur la France, finalement on arrive à un résultat satisfaisant. Mais quand on arrive à ce résultat satisfaisant, on se heurte à la conjoncture qui est que ces gens qui dominent la société aujourd'hui, et dont les ascendants dominaient la société il y a deux, trois générations et davantage, eh bien ces gens jouent dans la société, dans la culture, finalement aujourd'hui aussi dans le monde universitaire, un rôle tellement grand qu'on ne peut pas utiliser les sources. Il y a une manière raisonnable d'utiliser les sources, tellement raisonnable d'ailleurs ces 20 dernières années que finalement il vaut mieux ne pas consulter de sources. Ça vous explique pourquoi, si vous allez chercher le numéro spécial du Monde, si vous allez chercher le numéro spécial de l'Histoire, et si vous allez regarder les livres dont ces temps-ci on vous parle beaucoup, vous trouverez des ouvrages, ce qui est sidérant 70 ans après, dont certains ne comportent pas une source originale, mais sont exclusivement constitués de témoignages, de citations de bouquins, aucune source originale. Bon, comme ça fait longtemps que je fais d'histoire, et que j'ai fait l'histoire dans une période où les traits que je viens de vous décrire ont été appliqués tout le temps, c'est-à-dire que les archives s'ouvraient, mais on s'en servait de moins en moins, ou il fallait s'en servir de telle façon qu'il valait peut-être mieux ne pas les regarder. Eh bien, j'ai pris l'habitude de faire de l'histoire quand même, mais évidemment, le problème posé, c'est celui, compte tenu de la conjoncture, de la diffusion, qui ne me concerne pas seul, bien sûr, mais de la diffusion en France de ce qu'on peut trouver dans les archives. Ce qui m'arrive à moi arrive naturellement à d'autres et arrive aussi à des historiens étrangers dont le travail est absolument inconnu en France parce qu'il n'est pas traduit et parce que quand ça n'est pas traduit, globalement, évidemment, la population n'y a pas accès. Alors, autrement dit, ces sources, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? D'abord, elles permettent de voir que le grand capital domine la société du bas jusqu'en haut. Et qu'il domine la société dans des domaines qu'on pourrait trouver logiques et normaux, par exemple l'économie, encore qu'on nous explique que l'État joue un rôle très important. Vous savez, on nous dit ça beaucoup en ce moment. Oh là là, c'est terrible. L'État ne joue plus de rôle. Il n'y a que les banquiers maintenant qui jouent des rôles, qui jouent un rôle. Mais autrefois, le politique jouait un rôle considérable. Et donc, ces milieux, ils jouent un rôle considérable dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique, dans le domaine de la presse, dans le domaine de la culture. Bref, ils contrôlent à peu près tout. Ils contrôlent à peu près tout, et l'État et leur émanation. Évidemment, tout ceci que démontrent les sources est difficile à traiter ces 25 dernières années où on nous disait d'abord où on avait cessé de faire de l'histoire économique et sociale, il faut bien le dire. Je peux en juger de manière d'autant plus directe que j'ai commencé ma carrière en faisant d'histoire économique et sociale et surtout d'histoire sociale et syndicale qui a pratiquement disparu dans les tréfonds. l'histoire sociale en général. Hein. Les gens ne se posent plus la question de savoir finalement qui dirige quoi dans la société, puisque c'est plutôt indécent. À l'étranger, ce sont des choses qui sont encore abordées, ou qui étaient encore abordées dans les années 1980. Et j'ai commencé ma recherche sur le grand patronat et sur la synarchie avant-guerre en me retranchant, ça ne sert à rien, mais enfin on peut se prendre des précautions quand même, derrière un historien qui était un élève de Paxton, qui est depuis d'ailleurs très contaminé par la conjoncture actuelle et qui maintenant nous fait des ouvrages sur l'Europe dans lequel on ne trouve pas une seule référence de source originale, mais c'était un historien très intéressant qui s'appelle John Gillingham et qui a fait en 1979 une thèse excellente, un peu courte mais excellente, qui s'appelle « Belgian Business in the Nazi New Order ». Je ne sais pas si vous voyez le titre, un titre équivalent en français, c'est-à-dire, puisque c'est le grand capital belge dans le nouvel ordre nazi, ce serait pratiquement un titre indécent ces dernières années. Vous voyez ça, un historien qui ferait un bouquin « Le grand capital français dans l'ordre nazi nouveau ». Bon, ça se faisait... Et j'y avais trouvé des choses extrêmement intéressantes, en particulier que le grand capital belge, très proche, on le sait, du capital français, qui d'ailleurs avait été inclus dans ce fameux cartel international de l'acier dont j'ai parlé tout à l'heure, ce grand capital belge avait, pendant la décennie 30 précédant l'occupation, vu les choses avec beaucoup de lucidité, de tranquillité ma foi, de bonne disposition d'esprit à l'égard du grand voisin, c'est-à-dire avait passé les années 1930 à réfléchir sur ce qui se passerait quand les Allemands occuperaient la Belgique. Au moins, c'était clair. Et avait essayé d'établir un programme de ce qu'on ferait pour gouverner les Belges, pour atteindre des conditions de productivité naturellement très atteintes par la crise, pour rétablir le profit très atteint par la crise, pas tellement par l'agitation sociale, parce qu'on s'était peu agité en Belgique, encore qu'on se soit un peu agité quand même, un peu en 1932, un peu en 1936, beaucoup moins qu'en France. Au fond, comment rétablir le profit en se faisant aider par le grand voisin, qui avait certes des prétentions un peu exorbitantes, mais enfin qui aiderait quand même à rétablir le profit. Alors on avait préparé la structure des secrétaires généraux qui remplaceraient le gouvernement. Évidemment, on avait réfléchi à la disparition du Parlement, qui était un peu gênant. Des partis, particulièrement évidemment, il était obligé de supprimer tous les partis parce qu'il fallait quand même faire un peu égal. Des partis, on avait évidemment en tête surtout les partis qui pouvaient avoir envie de défendre les masses populaires, les syndicats, parce que les syndicats c'était quand même extrêmement gênant, même s'ils étaient très compréhensifs, il faut reconnaître qu'en Belgique, les directions syndicales étaient d'un haut niveau de compréhension. Mais ce très haut niveau de compréhension était devenu, dans les années 1930 de la crise, gênant cependant. Il faut bien observer, en effet, je le dis parce que souvent on fait de ce milieu dont je parle un milieu guidé seulement par l'idéologie, alors qu'il n'est pas guidé par l'idéologie, d'abord il est guidé par le taux de profit. L'idéologie, ça vient après, ou à côté, comme un moyen, évidemment, de s'assurer la garantie du meilleur taux de profit possible, en particulier, évidemment, d'obtenir de la population une adhésion aux conditions de ce que d'aucuns appellent l'exploitation et de ce qu'on nous appelle aujourd'hui le bon fonctionnement de l'économie, le bon niveau de productivité. Mais ce qui est intéressant, c'est le niveau du profit, qui était très atteint par la crise, niveau du profit qui supposait des salaires bas, le plus bas possible, et encore plus bas dans le contexte de la crise qui atteignait évidemment le capital, puisque les marchés se fermaient. Capital, je reviens encore à l'exemple de la Belgique, dont on n'imagine même pas le degré de concentration. D'abord, si on veut faire de l'histoire sérieusement, il faut toujours faire de l'histoire sur une période un peu longue. Et quand on entend à la radio que les choses sont toutes neuves, il faut se méfier, plus on vous dit qu'elles sont neuves, plus elles sont vieilles. Et en particulier, il faut se reporter à de vieux ouvrages. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le petit opuscule de Lénine qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », qui fait le point, c'était de manière militante, mais de manière scientifique aussi, sur l'état de la concentration du capital en 1914. Si vous lisez « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », vous tomberez de l'échelle, parce que vous serez sidéré du niveau de concentration du capital et de mondialisation de l'économie qu'on nous présente comme le fruit de ces dernières années, puisque on avait atteint dans la banque, dans l'industrie lourde, dans l'exploitation des matières premières de ce qui était à l'époque des pays ouvertement, officiellement colonisés, un degré de concentration remarquable, évidemment en 1939 un niveau de concentration encore plus remarquable, au point que les Allemands, très bien renseignés par divers canaux, même avant d'être là, avaient, quand ils ont été là en Belgique, fait une étude en 1941 qui leur permettait d'établir qu'un groupe comme la Société Générale de Belgique, fort lié au capital français, contrôlait tous les grands secteurs de l'industrie, près de 50% de la sidérurgie, à peu près les deux tiers, près des trois quarts, donc de la sidérurgie, entre les deux tiers et les trois quarts de la sidérurgie du zinc, 40% de la marine marchande, 90% de la raffinerie de sucre, 90% des produits coloniaux, c'est-à-dire contrôlait le Congo, l'extraordinaire trésor du Congo, et ces gens-là préparaient l'occupation, d'une part entre eux, d'autre part, de plus en plus avec les Allemands, puisque on pourra se pencher avec intérêt sur le fait qu'un des barons d'Avignon, ambassadeur du Reich, ambassadeur de Belgique auprès du Reich, était un dirigeant de la sidérurgie, intégré dans le cartel de l'acier, et que son fils ou son petit-fils a été une personnalité dirigeante de l'Europe telle que nous la connaissons dans les années 1960 et que je présume que les petits-fils ou petites-filles ou filles continuent la tradition. Eh bien, en France, c'était la même chose. En France, on parle beaucoup des 200 familles. Vous savez que c'est une expression qui est née dans le feu de la préparation du Front unique, comme on disait, ou du Front populaire, qui a eu beaucoup de succès. Il faut bien dire qu'il était parlant, mais même pas assez. Les 200 familles, qu'est-ce que c'était? C'était les 200 familles des 200 des plus gros actionnaires de la Banque de France. Mais ces 200 plus gros actionnaires de la Banque de France, je ne dirais pas étaient ridicules par rapport à l'ensemble du grand capital, mais étaient encore beaucoup par rapport aux gens qui dirigeaient vraiment la France, et qui dirigeait tout en France, à commencer par les gouvernements de la France. Il y avait donc la Grande Banque, toute la Grande Banque qu'on connaît, la catholique pas très développée, la protestante plus développée, la juive moins développée, mais tout ça se retrouvait en tout accord au sein de la Banque de France et en dehors. Il y avait, je le dis parce que dans ma synarchie, il y a la banque Worms, il ne faudrait pas que ça corrobore le fait qu'il y a une banque juive déterminante. D'abord, elle n'était que très partiellement juive, et Worms lui-même ne l'était pas, étant de mère catholique et n'ayant pas eu à souffrir du tout de l'occupation, bien au contraire. Et puis il y avait d'autres banques, évidemment, puisque tout le monde s'accordait, quels que soient les aléas et les différences de religion. Il y avait l'industrie lourde, c'est-à-dire le comité des houillères, c'est-à-dire une institution qui était née sous Second Empire, phase très importante dans la concentration du capital en France, de même que le comité des forges, puisque c'est entre les années 1850 et 1860 que s'est constitué d'une part le comité des houillères, dirigé à l'époque dont je parle par un certain Henri de Pellerimoff. Ah oui, je ne parle pas bon. Bon, voilà, P-E-Y-R-H-I-M-O-2-F, et le comité des forges dont j'ai parlé tout à l'heure et dont François de Vindel était le maître. S'il fallait chercher un roi de la France, il faudrait évidemment le rechercher dans ces zones-là. Il y avait les grands groupes de la chimie, en particulier... pour ceux à qui on explique l'état nérien ou l'état tout, que c'est différent, il y avait la chimie lourde, qui est un exemple remarquable du rôle de servante que joue l'État auprès du grand capital, puisque les groupes de chimie lourde s'étaient en particulier constitués de manière vraiment substantielle à la faveur de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que la chimie lourde, avant la Première Guerre mondiale, beaucoup de pays n'en avaient pas ou n'en avaient pratiquement pas, parce que la chimie des colorants, qui est la base de la chimie lourde, elle était contrôlée très largement par l'Allemagne. L'Allemagne représentait à elle seule près de 90% du marché international des colorants à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est vous dire qu'il a fallu la Première Guerre mondiale, ces moments où le capital est quand même obligé d'arbitrer ses conflits en faisant combattre les uns contre les autres des gens qui ne se connaissent pas, alors que ceux qui les y ont menés se connaissent très bien, c'est à la faveur de cette situation que s'est constituée une chimie des colorants et que l'État, qui avait dispensé à cette chimie des colorants tous les moyens disponibles du contribuable, a, à la fin de la guerre, offert avec la contribution du contribuable tout ce qui avait été acheté en terrain, en usine, etc. et a fondé la compagnie dite nationale, qui n'était pas nationale du tout, des colorants, ou firme Kuhlmann, qui était la plus grande entreprise de chimie. Il y en avait d'autres, mais c'était la plus grande, et qui était dans les années 1930 présidée par un certain René Duchemin, qui s'est trouvé être le président de la première mouture du MEDEF, celle qui était née en 1920, c'est-à-dire la première CGPF, la Confédération Générale de la Production Française, qui allait, à l'été 1936, s'appeler la Confédération Générale du Patronat Français, au cas où on n'aurait pas compris que la production était gérée par le patronat. Mais le changement de sigle a une certaine importance. Et donc, c'était un des maîtres de la France, comme Ernest Mercier. Alors celui-là aussi, on nous le case avec certains historiens, dans le camp des grands résistants à l'Allemagne, Ernest Mercier, qui était le maître des trusts de l'électricité, de telle sorte qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les changements récents à la tête de l'EDF nous reconstituent à peu près la situation dans laquelle la France se trouvait lorsqu'Ernest Mercier dirigeait l'essentiel de l'électricité en France et créait toute une série de sociétés écrans pour que l'Allemagne, le capital étranger étant interdit dans ces secteurs clés, pour que l'Allemagne pût tranquillement installer des sociétés discrètes dans l'ensemble des groupes dirigés par Mercier et ses associés. Eh bien, ce sont ces gens-là qui disposaient d'un rôle économique considérable, qui avaient décidé dans les années 1920, plus encore dans les années 1930, finalement, après avoir été avec le capital allemand dans une situation de très grave conflit, non pas de supprimer le conflit parce que la concurrence entre les capitaux ne peut pas être supprimée comme ça, mais finalement de trouver un arrangement pour que les uns et les autres on puisse gagner de l'argent. Comme disait Termeer, c'est-à-dire TER, c'est pas Termeer, hein, c'est un des chefs de Ligue Farben, discutant avec les Français en novembre 1940, TER plus loin M2ER, Termeer qui disait aux Français, écoutez, on va gagner de l'argent ensemble, mais bon, comme cette fois-ci vous êtes vaincus et que nous on est vainqueurs, ça ne va pas être exactement comme en 1918. Et donc, ces gens avaient décidé, à la faveur de la crise, ma foi, de trouver un arrangement et, bien sûr, de trouver un arrangement permettant de reconstituer le profit dans des conditions de conflit pour lesquelles il faudrait trouver des solutions. Donc, ces milieux avaient un rôle économique majeur. Alors, vous me direz, je vais peut-être laisser un peu tomber l'affaire, les dossiers économiques, simplement après avoir dit pourquoi, dans cette économie, l'Allemagne comptait tellement. L'Allemagne comptait énormément après que la grande bourgeoisie française eut connu sa première phase atlantique. Car il faut le savoir. Dans les années 1920 et même 1930, ces milieux qui allaient constituer le cœur de la synarchie s'étaient pris d'un grand amour pour les États-Unis. Les États-Unis avaient dicté les conditions de la paix. Oh, bon, on dira, ils n'ont pas signé Versailles. Non, ils n'ont pas signé Versailles. Ils ont quand même dicté les conditions de la paix. Ils avaient dicté les conditions de la paix en particulier parce que c'est eux qui avait eu la seule voie ouverte au chapitre, c'est-à-dire qui avait eu la maîtrise des réparations ou de la liquidation des réparations. D'ailleurs, de cette manière, la France s'est établie, le capital français, le grand capital français, s'était habitué à l'idée qu'il faudrait renoncer à la paix dure, c'est-à-dire à la paix de Versailles. Cette paix de Versailles était très dure, puisqu'aussi bien le grand capital français trouvait qu'il serait bon de supplanter le grand capital allemand dans la maîtrise de l'industrie lourde européenne, voire mondiale, et par exemple dans la maîtrise de la chimie, ce qui était un ample objectif, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la chimie des colons. Et puis, comme les États-Unis voulaient s'implanter en Europe, comme le meilleur moyen de s'implanter en Europe était de passer compromis avec le Reich, et d'autant plus de passer compromis avec le Reich que la structure du capitalisme américain et la structure du capitalisme allemand étaient fort semblables, que des liens de capitaux existaient fort important dans les industries très modernes entre l'Allemagne et les États-Unis avaient besoin d'une Allemagne forte, pas trop forte quand même, parce qu'il fallait quand même profiter de la victoire acquise en 1918, mais tout de même forte, puisqu'elle serait la base essentielle de la présence des capitaux américains sur le continent européen, et que ceci supposait que l'Allemagne ne fût pas traitée de façon trop sévère par ses concurrents européens qui étaient aussi les concurrents des États-Unis. Ça vous explique les échecs de la paix dure, échecs cinglants, dès le début des années 1920 sur le plan économique. Versailles était déjà fort malade. Et le grand capital français s'était habitué à l'idée que, puisque on ne pouvait pas établir cette procédure, finalement, on allait s'arranger. Puisque les États-Unis voulaient rétablir l'Allemagne en Europe comme une puissance dominante, eh bien, ma foi, au lieu de s'entêter à cette paix dure et à ce remplacement de puissance allemande, on pourrait peut-être faire affaire. Ce qui veut dire que dans les années 1920, le grand capital français a été à la fois très pro-atlantique et disposé à s'arranger avec l'Allemagne, comme d'ailleurs il s'était montré, il faut bien dire, disposé à traiter avec l'Allemagne avant la guerre de 1914. Il avait fallu quand même faire la guerre parce que les rivalités de capitaux, ça finit par se régler au couteau. Mais, enfin, ou au canon. Mais, finalement, sur la base de la présence américaine, on pouvait faire compromis. Et on a fait compromis avec, dans la phase de la crise, une tendance à abandonner ce vernis pro-américain qui était même devenu un vernis très épais. Et on est devenu d'autant plus pro-allemand que la crise a évidemment rendu les choses extrêmement difficiles. Tous les impérialismes ont été féroces. L'impérialisme américain, pas moins que les autres, comme c'était devenu déjà le premier, il était naturellement plus féroce que les autres. Donc, l'impérialisme français et mes très grandes sociétés ont fini par considérer que les États-Unis devenaient très gênants, la concurrence du commerce international, ou du point de vue du commerce international, était telle que finalement il fallait peut-être s'européaniser un peu, et s'européaniser, ça voulait dire passer compromis avec le Reich. Et ça vous explique toute une série d'éléments de fonctionnement d'économie, d'économie internationale entre les années 20 et les années 30, qui aboutissent à ce que, à partir de 1930-1931, le grand capital français s'engage dans une voie qui est une voie d'accord à tout prix avec le Reich. Quand est-ce que cette voie se dégage vraiment? Eh bien, dans une conjoncture qui est exactement la conjoncture d'aujourd'hui, sauf que la conjoncture d'aujourd'hui est encore plus grave que celle de 1931. C'est-à-dire que la crise de 1929 devient une crise systémique entre mars et l'été 1931. C'est-à-dire quand l'endettement de l'Allemagne menace de presque de chaos technique, ils l'ont même pensé à un moment, la survie du capitalisme, puisque l'Allemagne, dans les années 1920, a été irrigué par le capital étranger et on ne le sait pas seulement par le capital américain, par le capital français, anglais, suisse, etc. car les taux de rémunération des emprunts contractés avec l'Allemagne étaient supérieurs à tous les taux, ce qui vous explique d'ailleurs qu'on pouvait exporter massivement du capital quand en France on décidait une politique d'extrême austérité symbolisée par un des chouchous de la synarchie, c'est-à-dire Poincaré, le grand capital ayant certaines idoles. Elle a eu trois idoles essentiellement dans la période que je traite. Elle a eu Poincaré, elle a eu Pétain et elle a eu Schumann. Poincaré et Schumann ayant cette caractéristique commune d'avoir été de purs produits politiques du comité des forges qui ont assuré toute leur carrière politique et financé toute leur campagne électorale. Et à ce moment-là, comme l'Allemagne a failli s'effondrer, l'Allemagne, débiteur très important, beaucoup moins important évidemment que les débiteurs actuels et en particulier que les débiteurs américains, mais l'Allemagne a donc été sauvée, si je puis dire, ou son capital a été sauvé par des grands capitalistes français notamment, qui ne voulaient pas voir leur dette perdue. On s'y croirait. C'est-à-dire qu'ils sont venus discuter, négocier, sachant que le petit noyau, qui était déjà la synarchie de 1922,
était là, a joué un rôle déterminant. Je disais on s'y croirait, vous allez voir comme on s'y croirait. L'Allemagne chute, ils chutent tous, la livre s'effondre, on règle tout ça dans un endroit dont vous avez entendu parler ces derniers jours, parce que ça y est, on nous en reparle, la Banque des règlements internationaux à Bâle, dont on en parle ces temps-ci, parce que c'est un endroit où s'est réuni le premier club des banques centrales. C'est un bébé du plan Jung, du plan américain de liquidation des deuxième plan de liquidation des réparations. C'est un endroit très bien, parce que tout s'y règle en or, les dividendes, les intérêts, etc. Et c'est absolument en franchise fiscale, totale. Et s'il y a guerre, il ne s'y passe rien. Il ne s'y est rien, il ne s'y est rien passé, que des bonnes choses d'ailleurs, puisque c'est à Bâle que l'Allemagne a payé l'or volé, qu'elle a payé en or volé les intérêts de sa dette privée de la période 1923-1924, jusqu'à bien au-delà, la dernière livraison d'or ayant eu lieu, elle a été un peu interrompue en avril 1945, parce que après il y a eu quelques derniers développements qui ont contraint à stopper ces règlements en or. Donc, on s'est réunis cet autant à la Banque des règlements internationaux. Un de nos synarques, Clément Moret, gouverneur de la Banque de France, a dit au président de la Reichsbank, un certain Wilhelm Luther, dont Hitler ferait un ambassadeur à Washington. Il y a des bonnes gens qui vous disent que c'était un ambassadeur modéré, ils n'ont pas vu les sources. Mais notre gouverneur de la Banque de France a donc dit au président de la Reichsbank, à l'été 1931, ça chauffait vraiment, il lui a dit, écoutez, il faudrait vraiment que vous parveniez à une solution d'union nationale comme la nôtre, en 1926, avec Poincaré. Ça se traduisait très facilement. Le 14 septembre 1930, le petit groupuscule d'extrême droite appelé NSDAP, qui faisait 2,3% des voix en 1928, faisait désormais près de 18% des voix, était devenu le second grand parti. Enfin, l'Union nationale se ferait avec lui. Cette Union nationale s'est faite avec lui. Des liens définitifs ont été noués avec l'Allemagne dans deux domaines. Je reviendrai sur les aspects politiques. Dans deux domaines décisifs. D'abord, le domaine de la dette. Pourquoi est-ce que l'Allemagne était précieuse comme la prunelle des yeux? Eh bien parce que sa bonne santé garantissait le paiement de la dette privée. Parce que les réparations, non, mais la dette privée, oui. Et donc, l'Allemagne a payé. Ces milieux ont préparé leur affaire en juillet 1931. Ils ont décidé comment se réglerait la question de la dette allemande. Après quoi, ils sont venus chacun voir leur gouvernement, les nôtres comme les autres, et ils ont dit au ministre des Finances, on a passé l'accord à la BRI, vous nous garantissez l'accord à la BRI, c'est-à-dire que vous garantissez la dette allemande, vous garantissez notre créance. Ah, c'était un peu gênant. Même dans la droite classique, par exemple Flandin, qui a quand même hésité quelques petits jours, puis ça s'est arrangé, c'est-à-dire que le Parlement, mais c'était un... Il me semble qu'il y a un bruit.
Oui,
il
y a un bruit. C'est le...
J'ai peur que vous n'entendiez pas, vous n'entendiez peut-être pas au fond. Si ? Ça va ? Je n'ai pas besoin du micro ?
On va prendre l'autre.
Je sais pas, c'est le micro qui fait ce bruit ?
Ah, oui. Ah, bah finalement, j'avais pas de micro.
Non, ça c'est. Bien. Mais je sais pas si
c'est. Donc. Vous voyez, c'était un petit peu déplaisant pour ces milieux financiers. C'est pas du micro. c'est pas ça alors.
Oui, c'est ça.
C'est des tables d'écoute.
Ah non, du tout.
Ah,
il faut plus aigu, c'est quasiment ultra-son.
Ah, il faut que les chiens.
Voilà, il faut que ça.
Non, ça va faire rien. Utilisez le micro, vas-y, utilisez le micro.
C'était quand même un petit peu c'était désagréable parce que il avait fallu attendre l'avis du Parlement, qui était de bonne volonté, surtout le Sénat. Mais quand même, quelques jours, vous voyez, c'est déplaisant. La Banque de France, elle m'intéressait beaucoup. Elle faisait même les textes que le ministre signait ensuite, mais enfin, il fallait attendre. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi ces milieux ont trouvé que finalement, sans République, ce serait bien mieux. Mais j'anticipe sur les aspects politiques. Donc on a réglé les choses, et l'Allemagne est devenue un pays particulièrement cajolé, du capital français comme des autres, et définitivement cajolé, puisqu'il fallait que l'Allemagne paye à sa dette et que le peuple allemand paye à l'écho, et puis tous les peuples avec. Ça c'est le premier point. Et puis il y avait un deuxième point. Le deuxième point, c'est que dans la crise, les marchés se fermaient. Le capital français voulait ouvrir les marchés, mais était décidé à ne pas faire la guerre, puisque faire la guerre, ça supposait un conflit avec l'Allemagne dont il ne voulait pas. Il ne le voulait pas parce que les conditions d'exploitation de la main-d'œuvre n'étaient pas aussi parfaites en France qu'elles l'étaient déjà en Allemagne et qu'elles allaient le devenir. Elles l'étaient déjà en 1930, hein, avec la solution Brüning, c'est-à-dire une solution d'austérité passant par une baisse nominale des salaires. Il y a encore quelques mois, quand j'annonçais à certains que la revalorisation des traitements se traduirait en fait revalorisation par des baisses nominales des salaires. Il y a des gens qui avaient oublié la leçon d'histoire et qui pensaient que c'était tout à fait fantaisiste. Donc Brüning avait baissé les salaires, 5%, 10%, 15%. Bon, ça finissait par être gênant, et je reviens à mes syndicalistes compréhensifs. Syndicalistes compréhensifs, c'est très bien. Il faut avoir des troupes qui acceptent la compréhension. Ça devenait délicat avec des baisses considérables de salaire, de sorte qu'il fallait trouver une autre solution qui, on sait, a été trouvée, et d'ailleurs nos milieux y ont contribué très fortement. Il fallait aussi donc trouver des marchés sans réarmer. Trouver des marchés sans réarmer. Quoi de mieux que l'Allemagne qui, elle, réarmait. Elle réarmait clandestinement beaucoup depuis un certain temps. Avec la crise, elle a réarmé clandestinement encore plus. Ça a créé des marchés. Ça a créé des marchés qui, à partir de 1933, ont été des marchés considérables. Et il faut le savoir, parce qu'on ne le dit plus, l'autarcie allemande est une pure invention. C'est absolument absurde, c'est comme si on parlait de l'autarcie du Japon. Bon, l'Allemagne a du charbon, elle a de la potasse, mais à part ça, elle n'a pas grand-chose. Et pour faire une sidérurgie, comme vous le savez, il faut du fer. Et pour faire des avions, il faut de la bauxite, c'est-à-dire de l'aluminium puis de l'aluminium. L'Allemagne n'en avait pas, il se trouve que la France en avait. Et il se trouve que parmi ceux qui vendaient ces produits étaient précisément les milieux dont on vient de parler. J'ai oublié de vous parler des métaux non ferreux, mais évidemment, ils étaient dans le lot. Et donc, l'Allemagne, ces milieux ne pouvaient pas envisager un conflit avec elle, qui passa par le réarmement et qui risqua de conduire à un manque d'entente. Donc, milieu économique, dirigeant le politique. Ah. C'est le deuxième point. On nous explique beaucoup aujourd'hui, et s'il y en a parmi vous qui ont fait des études de sciences politiques, et même qui ont fait des études d'histoire, parce qu'il y a une contamination, on nous explique qu'il y a beaucoup d'autonomie du politique. C'est faux.
Il y a très peu d'autonomie politique. Il y a très peu d'autonomie du politique, au point qu'on peut dire que le texte de 1943 de quelqu'un qui connaissait très bien la synarchie et qui faisait cette remarque que Daladier, Roosevelt, Franco, Hitler, Chamberlain, c'était à peu près le même rôle qu'ils assumaient, puisque derrière, il y avait ceux qui dirigeaient vraiment. Alors aujourd'hui, on nous dirait, oh mais non, alors je n'ai pas encore parlé d'histoire complot, mais ça c'est de l'histoire superficielle, qui répercute des vieux mythes gauchistes. Bon, pas du tout, puisqu'aussi bien, on peut démontrer que la France était une dictature de la Banque de France, et la Banque de France, elle était dans ce petit noyau où certains des représentants de la Banque de France, ou liés à la Banque de France, étaient dans le petit noyau originel de 1922 de ces 12 maîtres de l'économie qui pensaient qu'il fallait réformer les institutions de la France. En effet, ces milieux économiques faisaient les gouvernements. Ah, me direz-vous, pas du tout. On avait un système parlementaire et nos hommes politiques, après des élections, se présentaient devant le Parlement qui les investissait. Eh bien, tous les gouvernements, y compris celui de Blum, d'ailleurs, qui avait promis d'être très sage, tous les gouvernements, y compris celui d'Herriot en 1924, qui avait aussi promis d'être très sage, et qui l'a été, venaient se présenter, tous les chefs de gouvernement pressentis venaient se présenter avec leur ministre des Finances pressenti devant le gouvernement de la Banque de France, auquel ils promettaient, pour obtenir les avances de la Banque de France, d'être très sage et de pratiquer une politique d'austérité financière tout à fait convenable. Et naturellement, ça s'appelait la défense du franc. Défense du franc qui n'était en quelque sorte qu'une formule, puisque la Banque de France, en tant que de besoin, spéculait massivement sur le franc. Elle l'avait fait massivement en 1924-1926. Elle l'avait tellement fait massivement qu'elle a obtenu de l'État et du contribuable en 1931, quand la livre s'est effondrée, que le contribuable finança non seulement ses spéculations, mais la perte de valeur du produit de ses spéculations. Et voyez-vous, ça n'a encore pas suffi pour convaincre les milieux en question que la République était une bonne fille qu'il fallait garder pour ses qualités. Ces milieux, donc, faisaient la loi dans les gouvernements, y compris à gauche, y compris dans le plus à gauche qui ait été institué en France. Et par exemple, il faut savoir que Blum est venu avec son ministre des Affaires étrangères pressenti, Vincent Auriol, qu'on nous présente comme un représentant de la gauche de la section française de l'Internationale ouvrière, puisque c'était le nom du Parti socialiste. Eh bien, si Vincent Auriol était à l'époque de gauche, il ne l'est pas resté, comme l'attestent les sources, et notamment les sources de la Banque de France, que j'ai consultées avec, il faut bien le dire, sur cette évolution, bien d'autres sources. Et donc, ces gens dirigeaient les gouvernements, ces gens dirigeaient les partis de droite, d'extrême droite, ils les finançaient, je dirais même, par essence. Vous avez peut-être vu un téléfilm il y a quelques mois qui avait des aspects intéressants, mais à qui il manquait l'essentiel. On avait l'impression que c'était en quelque sorte l'élite d'extrême droite qui de temps en temps stimulait les patrons pour leur faire comprendre quand même qu'il faudrait utiliser plus de poignes. Ben, c'était quand même une grosse erreur de perspective, parce que l'élite c'était les financements patronaux évidemment qui les faisaient vivre. Ça allait jusqu'à une partie de la gauche raisonnable, la gauche de gouvernement, qui était, certes financé moins généreusement que la droite ou l'extrême droite, mais qu'il était même pour laquelle on consentait de temps en temps un petit effort et même un effort substantiel. Par exemple, quand le patronat a jugé bon de se donner les moyens de casser le Front populaire contre lequel il ne pouvait rien en 1935 ou pas grand-chose, il pouvait, mais pas autant qu'il aurait voulu, eh bien, il s'est montré très compréhensif avec le Parti socialiste, plus compréhensif qu'avant. Et donc, évidemment, ces gens contrôlaient la presse, comme je l'ai dit, les journalistes, les grands journalistes. Je sais que les journalistes ont horreur qu'on raconte ces choses, mais c'est pourtant vrai, et les archives policières sont à cet égard catégoriques et pas du tout idéologiques. Alors, je ne vais pas parler ici de la petite frange très, très étroite qui échappait à ce contrôle du patronat. J'ai tort d'ailleurs, ça viendra peut-être dans la discussion, parce que c'est ce qui fait la différence avec notre période, c'est que c'était une fraction qui était un peu plus importante qu'elle n'est aujourd'hui, ce qui explique que le contrôle sur les partis soit plus total aujourd'hui qu'il n'était dans les années 1930. Ces milieux-là, qu'avaient-ils décidé en matière politique? Quel était, en quelque sorte, leur véritable tête? C'était précisément ce qui s'est appelé la synarchie, ou qu'on a connu comme la synarchie, à partir d'un scandale qui s'est déclenché entre le printemps et l'été 1941. C'est-à-dire, dans ces milieux qui réfléchissent toujours à la manière de gérer les choses et de s'assurer évidemment la pérennité des choses, d'abord 12 hommes. J'en connais 11, je ne connais pas le 12e. Pour conjecturer, mais enfin pour ça n'a pas grande importance, c'est-à-dire des hommes qui appartenaient au groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont appelés mouvements synarchiques d'Empire. D'Empire, c'était un peu logique, dans la mesure évidemment, où l'Empire colonial avait, dans ces milieux, notamment dans les milieux bancaires, un rôle absolument déterminant. Il y avait par exemple la banque Worms, très vite la banque d'Indochine, et ces banques étaient des banques dont une partie essentielle de la richesse était assurée par l'exploitation de l'empire colonial. Ces milieux sont devenus, étaient animés au départ par une douzaine d'hommes, dont on va dire que 40 à 50 étaient vraiment importants. Les 40 à 50 qui ont fait Vichy, dont certains étaient plus stratégiques que d'autres, il n'y a que les économiques qui étaient vraiment stratégiques, hein, on les retrouve dans tous les gouvernements de Vichy, en particulier au poste économique. Quand ils sont importants avec des fonctions politiques, ils ne sont importants en fait que d'apparence. Et ces milieux avaient décidé que les structures politiques étaient détestables. Elles étaient détestables parce qu'elles ne pouvaient pas réaliser les meilleures conditions de rétablissement du profit. On était, vous l'observerez d'abord, avant la crise. Mais on était dans une période tout de même très tourmentée, puisque le premier après-guerre a été très tourmenté, on sortait d'une crise de reconversion en 1921-22, et l'Italie avait réglé très bien ça, puisque un gouvernement fasciste y avait été institué. Ce gouvernement fasciste avait passé pour un modèle pendant longtemps. Il avait supprimé de fait le Parlement, il avait liquidé le syndicalisme. Il était très bien. Ces milieux ont trouvé, à partir des années 1930, qu'en Allemagne, c'était encore mieux. Puisqu'en Allemagne, on pouvait être particulièrement sévère sur les salaires sans que personne bougeât. Encore plus, évidemment, quand Hitler a supprimé complètement les syndicats, comme vous le savez, dès le 2 mai 1933. Et donc, le modèle italien, puis le modèle allemand, ont exercé sur la synarchie une influence d'autant plus grande que, vous le savez, je n'ai pas parlé d'Italie, mais avec l'Allemagne, les relations économiques étaient prédominantes. Ces milieux, dans les années 30, sont en quelque sorte, ont développé considérablement leur assise sur la société. En particulier en créant des comités divers, dont certains étaient importants, d'autres pas, et en particulier les comités de Jean Coutreau, un ancien industriel, que la synarchie, qui était devenue un synarque, que la synarchie avait embauché, industriel atteint par la crise, devenu en quelque sorte un employé idéologique, et il avait, à partir des milieux qui intéressaient le plus directement la synarchie, c'est-à-dire les grandes écoles, et en particulier l'école polytechnique, et par ailleurs avec les inspecteurs des finances, qui étaient en quelque sorte le cœur des milieux financiers, il avait constitué des comités, dont certains étaient des vrais comités décisionnaires, et dont d'autres étaient des attrape-tout destinés à développer l'assise idéologique et politique de ces milieux, c'est-à-dire qui étaient chargés de séduire des syndicalistes compréhensifs, des professeurs d'université, des intellectuels, vous voyez, toutes sortes de gens qui avaient un pouvoir d'influence qui était connu, qui avaient un pouvoir d'influence dans la société. S'ils n'avaient pas, on le leur donnerait, puisqu'on leur donnerait des accès à l'édition, à la presse, à la notoriété, qu'ils n'auraient pas pu avoir sans cela. Et ces comités, je le répète, il y en a d'importants, de plus importants, je les détaille dans Le choix de la défaite, mais enfin, évidemment, l'important, c'est les enjeux plus que le détail. Ces comités ont, à partir des années 1930, joué un rôle extrêmement important en matière politique et idéologique, puisque ils ont en quelque sorte permis d'approfondir l'influence des banquiers par le truchement de gens que personne ne pouvait soupçonner d'être lié avec la banque. Je vais donner un exemple qui est très intéressant pour la conjoncture actuelle. Le critère, je ne l'ai pas défini, c'était naturellement d'être anti-bolchevique. Car le grand capital s'était très mal porté du grand ébranlement qui avait eu lieu à l'Est en 1917, contre lequel il avait déployé tous les moyens possibles, mais contre lequel il serait évidemment plus facile de déployer des moyens si l'influence exercée par le grand capital s'exerçait par le truchement de personnalités disposant de la confiance de large masse. C'est comme ça que la synarchie s'est intéressé aux syndicalistes raisonnables de la CGT. Parmi eux, il y avait le secrétaire général, Jouot, qui avait lui surtout une obsession, garder la direction de la CGT et la soustraire à toute influence bolchevique, ce qui était un petit peu délicat dans une phase de crise favorisant en quelque sorte le caractère radical des populations. Eh bien, il s'en était trouvé un autre, un certain René Belin, secrétaire général, lieutenant de Jouot, appelé de manière sûre à prendre sa succession. Et ils l'ont financé. Entièrement financé. Ils lui ont donné, dans les conditions de la crise, du mécontentement populaire, de la radicalisation populaire, le moyen de résister à la radicalisation populaire. Je ne vous cite que cet exemple, j'en cite d'autres, bien sûr. Parce que il faut bien comprendre comment les relais de cette synarchie se manifestent et sont efficaces dans la société. Donc, il y avait les comités. Il y avait les partis classiques que la crise risquait de mettre en question. Vous savez bien que dans la crise, les populations ne sont pas contentes, elles commencent à exprimer leur mécontentement à l'égard de ces partis dont d'habitude les représentants sont élus comme une lettre à la poste. Donc ils ne pouvaient plus l'être. Le patronat finançait la droite, ce qu'on appelle la droite républicaine. Elle ne l'était pas, elle ne l'était plus, parce que dans la période de la crise, il y avait eu, comme l'a très bien montré mon collègue américain Robert Soucy, il y avait eu une fusion entre la droite et l'extrême droite. Cette extrême droite, c'était les ligues. Il y avait eu deux phases de ligues. Les années 1920, où l'influence de l'Italie s'exerçait de manière très efficace, de sorte que toute une série de ligues fascistes avait été constituée. Un certain nombre avaient été maintenus et elles avaient été accrues ou relayées par d'autres ligues d'allure plus spécifiquement allemande ou d'emblée destinées s'allier plus décisivement avec l'Allemagne, celle des années 20 aussi d'ailleurs. Ce sont ces ligues qui, en 1935-1936, sans perdre leur spécificité de ligue, avec quelquefois des éléments très nouveaux, il y en a eu un le petit dernier qui est arrivé avec un transfuge du PCF, Doriot, qui a fondé un parti à l'été 1936, qui a été une sorte d'état-major de la synarchie, c'est bien simple, le parti d'un ancien communiste dont le bureau politique était constitué à peu près exclusivement de salariés de haut rang de la Banque Vance. Et ces ligues ont été fondues en 1935-1936 dans ce qu'on appelle la cagoule. Sur cette base-là, dans une conjoncture marquée par le mécontentement, par la radicalisation induite par la crise, et alors même que le patronat, la synarchie en tête, se rendait bien compte que la manière classique d'exercer le pouvoir allait échapper, que le fameux Front populaire allait momentanément gagner, puisque momentanément on ne pourrait pas empêcher les électeurs d'élire d'autres que les représentants classiques de la bourgeoisie, eh bien la synarchie a décidé de réorganiser les fameuses ligues et de constituer la cagoule qui a été, comme dit très bien le juge d'instruction Pierre Béteil, en quelque sorte son aile marchande, on pourrait dire son bras armé. Ça s'est traduit par une stratégie de la tension. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Italie seront frappés de la ressemblance entre les années 1936-1937, avec des explosions ici et là, des crimes, et ce qui s'est passé en Italie dans les années 1970 et 1980, quand il y avait aussi un début de mobilisation populaire, mais un début de mobilisation populaire en quelque sorte partielle et tumultueux et divisé, et cette synarchie, se servant de son bras armé, s'était en quelque sorte institué une formation politique de rêve. Elle avait sur ce point été plus précoce que pour regrouper son bras armé, c'est-à-dire qu'elle avait décidé et mis au point sa formule dès 1934. Dès 1934, deux premiers signes très marquants sont apparus, puisque la première véritable tentative fasciste, au contraire de ce que dit Bernstein, c'est pas simplement la petite ou la moyenne bourgeoisie indignée par l'état du parlementarisme, c'est la première des tentatives fascistes en France. Financée largement, la commission parlementaire l'a prouvé, commission parlementaire imprimée, hein, vous pouvez la trouver, la commission parlementaire sur le 6 février 1934. Le 6 février 1934 a été la première tentative. Dans les mois qui ont suivi, à la faveur du gouvernement Doumergue, vous savez qu'on vous présente comme un brave garçon, ce brave Doumergue, Gastounet, hein, qu'on est allé chercher de sa retraite. Donc, ce qu'on ne vous raconte pas, c'est que sa retraite, la compagnie internationale du Suez l'a lui fixé quand même à 600 000 francs par an. Comme avec, en d'ailleurs, la même chose. On est allé chercher Gastounet, et on a fait un gouvernement autoritaire et œuvrant par décret qui a réuni le petit noyau de la formule qui allait triompher en 1940, c'est-à-dire l'aval et ce qu'il appelait sans ménagement le dessus de cheminée indispensable, c'est-à-dire Pétain, un chef militaire qui aurait du prestige, comme disait de Ravel. Et c'est sur cette base, avec parfois des difficultés, parce qu'il faut le savoir, le triomphe très fugace, mais le triomphe du Front populaire ou la victoire du Front populaire n'a pas accéléré ce phénomène, mais freiné ce phénomène, c'est sur cette base qu'a été, de 1934 à 1940, mitonner une opération intérieure accompagnée d'une opération extérieure et dont le détail que je me suis efforcé de transcrire aboutit à la défaite, c'est-à-dire à la décision de ne pas combattre l'Allemagne qui, elle, a décidé de combattre parce que une conquête, ça ne s'arrache jamais sans y mettre les moyens militaires. On vous dit qu'il ne faut pas sacrifier à la théorie du complot, il n'y a pas de théorie du complot, il faut analyser les stratégies. Il faut bien comprendre que des stratégies passent par des complots. Il faut d'ailleurs admettre l'idée, quand on regarde les sources, que finalement, dans une société de ce type, les gens d'en haut sont contraints de manière permanente au complot. Ils sont contraints au complot parce qu'il leur faut trouver les moyens de maintenir leur domination, ce qui devient fort difficile en période de crise. Donc déployer des moyens très importants. Bah, en bon français, ça s'appelle un complot, une conjuration. Qui est-ce qui pourrait me dire ici qu'Allende est tombé tout seul? Personne ne le pense. C'est-à-dire que, puisque les Américains déclassifient, d'abord, sont assez sans gêne sur des pratiques qu'ils ont pu réaliser, après tout, assez facilement, vous voyez, ça donne de l'audace dans la divulgation des informations. On a su très vite comment Allende était tombé. Ben, la République, elle est tombée comme Allende, et très vraisemblablement comme au Chili. Je ne connais pas bien l'histoire du Chili, ou même pas du tout le détail de l'histoire du Chili, avec des complicités très sérieuses, c'est-à-dire allant jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire des complicités qui rendent absolument scandaleuse la présentation actuelle de 1940, qui fait du dernier président du Conseil en poste du 20 mars 1940 au 16 juin mai parce qu'il avait déjà fait venir Pétain, au 16 juin 1940, qui fait donc de Paul Reynaud une espèce de nigaud gâteux, qui se fait mener par le bout du nez par une intrigante qui a de la sympathie pour l'extrême droite, je viens de dire ça dans Le Monde, vous voyez, elle est proche de l'extrême droite, c'est un terme très souvent utilisé, vous voyez, c'est un peu comme si on nous disait quand on décrit les mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres que Hitler et Mussolini sont proches de l'extrême droite. On aime beaucoup ce terme de proche de l'extrême droite. Madame Deporte n'était pas proche de l'extrême droite. Elle était à l'extrême droite et elle hurlait qu'elle voulait la défaite de la France parce que la France irait beaucoup mieux quand les Allemands seraient là. Mais ce qu'on doit à l'honnêteté de dire, c'est que Reynaud ne l'avait pas attendu pour être complice des Synarques et que ce Reynaud qu'on vous présente comme un gratteux, c'est quelqu'un qui avait fait toute sa carrière ministérielle avec, dans ses cabinets, exclusivement l'émanation de la synarchie, et en particulier des cabinets, qu'ils soient aux finances ou pas aux finances, à peu près exclusivement constitués d'inspecteurs des finances synarques. Eh bien, il est impératif de revendiquer le droit au savoir, le droit d'accéder aux sources, le droit de la population à faire de l'histoire, sachant que ça donne au moins la possibilité de réfléchir sur la réalité, de donner une appréciation raisonnable des rapports entre ceux qui détiennent à peu près tout au sommet et ceux qui ne détiennent pas grand-chose ou rien. Et il faut bien comprendre à quel point la connaissance scientifique, la connaissance historique est aujourd'hui un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que, particulièrement en période de crise, il est indispensable de faire en sorte que la population ne comprenne rien, soit abattue, soit en quelque sorte comme dans un tunnel noir, alors même que la connaissance de l'histoire lui permet de dérouler ces fameuses stratégies qui sont passées, il faut le dire en France, par un complot contre la République. Eh bien, ce complot contre la République, on a maintenant les sources pour l'analyser. On a les sources pour montrer que ces gens qui ont fait la mort de la République et qui ont fait Vichy sont les mêmes qui ont fait l'après-Vichy. Puisque la France se trouvant dans la zone d'influence américaine qui à l'époque ne comportait pas la totalité de l'Europe, la France a réalisé, enfin a en quelque sorte refait l'économie suivi la période de libération en maintenant les mêmes au pouvoir, même sous le masque de Gaulle, avec la complicité de Gaulle, et une telle complicité que des fonds qui auraient dû être ouverts très vite ne l'ont pas été, et qu'on se retrouve aujourd'hui, alors qu'ils le sont partiellement, mais notablement, on se retrouve aujourd'hui avec une connaissance des phénomènes très inférieure à ce qu'elle était en 1944-1945, parce que pendant l'occupation, les milieux résistants avaient obtenu des informations, avaient diffusé ces informations, ce qui vous explique qu'aujourd'hui, des gens de 80 ans et plus sont très peu surpris quand on leur raconte que la France a été victime de haute trahison, alors que si on dit ça à un étudiant de 20 ans, au début, on lui provoque des réactions de malaise et même d'indignation. Voilà pourquoi, les circonstances étant ce qu'elles sont, il est indispensable de faire de l'histoire, il est indispensable de faire le maximum pour que l'enseignement de l'histoire, si compromis aujourd'hui, puisse se diffuser, même dans la période où il est compromis, par les divers canaux, la discussion Internet, etc. Et voilà comment, sur ces bases, réfléchir sur 1940 et sur les données, sur les circonstances qui ont fait que la France, à un moment donné, est passé de grande puissance à puissance incapable de combattre, sachant que la défaite de la France n'a pas duré un mois et demi, comme on le raconte. En gros, la France était vaincue dans les deux jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre, évidemment pour des raisons qui tiennent beaucoup au plan de la synarchie et de la Kaboul. Alors j'ai été évidemment, je pense qu'il vaut mieux arrêter hein, pour pouvoir discuter, je n'ai pas été très précise, mais mes livres sont très précis.